Vous savez que la vision de notre Église, c'est-à-dire la vision, l'horizon toujours inatteignable, est de grandir dans l'amour. Pourquoi inatteignable? Tout simplement parce que nous ne cessons jamais de grandir. Donc, on ne peut pas atteindre le fait de « Ah là, aujourd'hui, j'ai déjà fini de grandir dans l'amour. » Hein? On ne finit jamais. Et notre vision, c'est toujours, on ne cesse jamais de grandir. Et c'est pour ça qu'en grandissant dans l'amour, nous grandissons dans la relation avec Dieu, tout simplement parce que Dieu est amour. Nous grandissons aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé dans sa parole. C'est logique, hein? Ce n'est pas souhaitable. On va forcément grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand je dis on va grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je ne parle pas de connaître quelques versets par cœur. Je parle de connaître le texte biblique. Le contexte où le texte biblique a été écrit, pourquoi il a été écrit et comment les premiers auditeurs ont compris ce texte biblique pour que nous comprenions, nous aussi, quel est le message de Dieu pour nous. Le message de Dieu n'a jamais changé. Du coup, le message de Dieu pour la communauté primitive il y a 2000 ans, c'est le même message pour nous aujourd'hui. Ça, c'est notre horizon. On ne cesse jamais de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je disais cette semaine, lors des études bibliques, du sermon sur la montagne, je vous encourage à y participer. C'est déjà la troisième fois que je fais cette série d'études bibliques. Et figurez-vous qu'en préparant chaque étude pour cette église, je suis obligé de changer un peu et de mettre d'autres choses et d'autres découvertes. Et je disais à quelqu'un qui était là avec moi, avec Eladie, je dis, c'est impressionnant, après la troisième fois que je fais cette série d'études bibliques, je découvre encore d'autres choses que je n'avais pas remarquées. Soit j'étais bête, soit le Seigneur se renouvelle jour après jour. Donc, du coup, on ne cesse jamais de grandir dans l'amour. Pas besoin de me flatter, hein, si je suis bête, je suis bête. Hein? Et en grandissant dans la parole, en grandissant dans la connaissance du Seigneur, dans la relation intime et personnelle avec lui, en grandissant dans notre connaissance du texte biblique, qu'est-ce que cela a voulu dire hier? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Quel est le résultat concret, observable? Ça, par contre, si la vision, on ne peut pas l'atteindre, hein, parce qu'on ne cesse jamais de grandir. Par contre, la mission, c'est observable. La mission, nous pouvons la toucher. La mission, nous pouvons la mesurer. Et quelle est notre mission? La mission de notre Église, justement, est de former des personnes mûres et solides dans leur relation avec Dieu et dans leur relation avec les autres par la parole. Et lorsque nous voyons un chrétien mûr et un chrétien solide, ça, nous pouvons le voir, le constater. Attention, pas juger. Mais nous pouvons constater, nous pouvons observer un chrétien mûr, Du coup, c'est ça la mission de l'Église. C'est ça, c'est pour ça que nous venons là. Et je vous invite, chaque fois que vous entrez dans ce temple, hein, je ne dis pas chaque fois que vous venez à l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas un endroit. L'Église, c'est nous. Mais chaque fois que vous entrerez dans ce temple, je vous invite à lire ces deux documents de la mission et de la vision de l'Église. Merci, Tessia. Ils sont accrochés, ils sont fixés à l'entrée du temple. Et chaque fois que vous entrerez dans ce temple, ou même sortir, si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite, je vous encourage à jeter un œil sur la mission et la vision de l'Église jusqu'à ce que tout cela soit bien pénétré, entré dans nos cœurs et dans nos esprits. Pourquoi je vous encourage à faire ça? Parce que tout ce qu'on fait à l'Église, chaque culte, chaque réunion, chaque ministère, chaque activité doit forcément être basé sur la vision et la mission. Pourquoi? Parce que si chacun de nous vient ici avec une idée différente de ce qu'est l'Église, d'une vision différente de ce qu'est la mission et la vision de l'Église, les uns vont marcher par là, les autres vont marcher par là-bas. Il y aura même ceux qui vont essayer de faire le juste milieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Où nous allons? Il y a d'autres façons de vivre l'Église, bien évidemment. Il y a d'autres missions, d'autres visions tout à fait chrétiennes, bien sûr. On ne dit pas que ça, c'est le dernier cri en tant qu'Église. Waouh! Non, il y a d'autres façons. Nous avons d'autres frères et sœurs dans d'autres communautés. Mais il faut choisir une manière de vivre. Il faut choisir une manière de cheminer. Ce n'est pas la seule valable. Mais il faut s'organiser d'une façon pour que nous allions tous dans la même direction, pour montrer que nous sommes bien organisés, pour montrer que nous sommes, waouh, le dernier cri de l'organisation de l'Église. Non, pour glorifier le nom du Seigneur. Hein? Ça, ce n'est pas la prédication. Je suis désolé de vous dire. Mais je ferai ça de temps en temps. Hein? Nous rappeler notre vision et notre mission. Et puisque nous connaissons maintenant notre mission et notre vision, hein, il faut aussi penser et toujours réfléchir. Pourquoi nous venons ici? Pourquoi nous quittons nos maisons pour venir là? Quel est le but? Quelle est la raison? Et dans un monde où tout se mesure à l'efficacité, hein, ou à la valeur d'une chose, hein, la valeur d'une chose dépend souvent de ce qu'elle produit. Nous vivons dans un monde qu'il faut produire. Hein. Et donc, il est légitime pour nous de nous poser cette question essentielle, pourquoi l'Église existe-t-elle vraiment? Et merci Tessa, tu peux revenir. Merci beaucoup. Chaque dimanche, nous venons ici. Mais pourquoi? Est-ce simplement pour partager un bon moment entre amis? Pour entretenir une habitude religieuse? Pour trouver un peu de réconfort dans une semaine agitée? Tout ça en fait partie. Hein? Nous avons des amis à l'Église. Nous avons besoin du réconfort. Mais est-ce les seules raisons pour venir ici? Si ça, c'était la seule raison, il faut bien, nous sommes bien d'accord qu'il y a d'autres associations en France pour trouver des amis, pour trouver trouver un réconfort. Tout ça, nous trouvons dans l'Église. Mais est-ce les seules raisons? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus glorieux, de plus divin derrière nos rassemblements? L'Église n'est pas une simple organisation humaine. Elle n'est pas une ONG spirituelle, ni un club de croyants. Elle est le corps vivant du Christ. Elle est appelée à refléter sa présence et accomplir sa mission sur la terre. C'est pour ça qu'on parle de mission. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir, hein, et de temps en temps, il faut parfois... Hein, ce que je vais dire là, ce n'est pas une découverte, nous le savons déjà. Mais le Christ, pendant ce processus de discipulat, il rappelait souvent des disciples. Hein, il disait une chose, il vivait, il ratait pas mal de choses, il loupait tant d'autres, et Jésus rappelait les disciples sur la mission essentielle. C'est ce que je veux faire là. Vous allez noter que ce n'est pas la grande découverte théologique du siècle. Hein? Donc, au-delà de la simple question de pourquoi l'Église existe, il y a une autre interrogation qui se pose. À quoi doit-elle ressembler? En d'autres termes, la Bible, est-ce que la Bible nous donne un modèle précis de ce qu'est une véritable Église? Hein? Certains aimeraient trouver un chemin tout tracé, une structure parfaite. Mais la parole de Dieu ne propose pas une seule forme d'organisation d'Église. Tout simplement parce que ce n'était pas le but du Christ. Hein? Ce que la Bible, ce que la parole de Dieu nous offre, c'est bien plus profond. Des principes immuables qui révèlent l'essence même d'une Église authentique. On appelle ces principes immuables la vérité. Pourquoi? La vérité est quelque chose qui demeure. Par contre, une illusion, c'est quelque chose qui est éphémère, qui va disparaître. Par exemple, notre travail, c'est une illusion, dans le sens que notre travail n'est pas éternel. Notre santé, c'est une illusion, dans le sens que nous n'aurons pas toujours notre santé. D'ailleurs, la Bible dit que la vie de l'homme est une vapeur. Aujourd'hui, il est là, et le lendemain, plus rien. Hein? L'argent, n'en parlons pas, c'est une illusion. Aujourd'hui, nous l'avons. Et demain, la grande crise de 1929, 2008 et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des illusions. Dans le sens biblique du terme, que ça ne demeure pas. Mais des principes immuables que la Bible nous offre, c'est la vérité parce que les principes bibliques demeurent éternellement. La bonté de Dieu. Dieu, il a eu une période dans l'histoire que Dieu a laissé sa bonté de côté. Il y a eu une période, du coup, c'est la vérité, parce que ça demeure. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité une période où l'humanité a laissé son péché de côté. À cette période-là, les gens n'avaient pas de péché. C'était très court quand même. Et ça, c'est une vérité. Est-ce qu'il y a une période de l'histoire de l'humanité où Dieu n'a pas aimé sa création? Non. Du coup, l'amour de Dieu, c'est la vérité parce qu'il demeure. Et on appelle ça vérité. La vérité dans la Bible, ce n'est pas le contraire du mensonge. C'est le contraire de l'illusion. Du coup, en parlant de l'Église et des principes immuables, l'essence d'une Église authentique, Peu importe sa taille, son style, sa gouvernance, une vraie Église se reconnaît à une chose, elle accomplit fidèlement les trois missions que Dieu lui confie. Et si une communauté oublie ou néglige ne serait-ce qu'une de ses missions, alors il faudrait revoir les principes de cette Église, ou même si c'est une Église. Hein? Donc, la première tâche, la première responsabilité de l'Église. L'Église existe pour être une communauté d'adoration à Dieu. C'est la première. L'Église existe pour être une communauté d'adoration à Dieu. Et l'apôtre Paul ne tourne pas autour du pot. Hein? Il expose sans détour la réalité de notre condition devant Dieu. L'humanité est profondément corrompue, rebelle, hostile à son Créateur. Il ne cherche pas à ménager nos sensibilités, hein, parce que seule la vérité met en place la grandeur et la grâce. C'est-à-dire, seul l'enseignement qui demeure, l'enseignement de Dieu, du Christ qui demeure, peut exposer notre faillite en tant qu'être humain. Il suffit de lire Romains 1, 2 et 3 pour voir notre état. Hein? Mais la question, elle est directe. Comment cet état de perdition influence-t-il notre manière d'adorer? C'est-à-dire, quel jeu, hein? Quel est le jeu, quels sont les enjeux de reconnaître notre état de pécheur devant la grandeur de Dieu? Et pourquoi c'est important de reconnaître notre état de pécheur? Hein? Tant que nous ne réalisons pas la gravité de notre péché et la gravité de notre séparation que le péché a créé entre Dieu et nous, notre adoration restera superficielle. L'adoration authentique, en fait, jaillit de la reconnaissance. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a ouvert les yeux sur la mort spirituelle qui nous habitait. Et parce qu'il nous en a délivrés. Paul dit puissamment et fortement en Colossiens 2, 13, 15, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements de Dieu. » Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Et là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Tout ce qui nous séparait de Dieu, qu'est-ce que Christ a fait? Il les a tirés. Venez là, maintenant vous êtes captifs. Les démons, le péché, la séparation, venez là, vous êtes captifs. On vient de chanter, tu as gagné sur la mort. Hein? Tout ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait pour nous. Mais face à cette impuissance, Dieu lui-même a pris l'initiative. Il n'a rien vu en nous. Hein? Donc, il a pris lui-même l'initiative. Par la mort de Jésus sur la croix, il a effacé nos péchés, il a brisé le pouvoir de la mort, il a anéanti toute accusation que Satan et ses démons pouvaient porter contre nous. Et voilà pourquoi notre adoration ne peut pas être tiède. Nous adorons parce que nous avons été libérés. Libérés du péché. Libéré de la culpabilité, libéré de la mort. Nous adorons parce que nous savons ce que nous avons été et nous voyons ce que nous sommes devenus par la grâce. Quelle devait être la réaction de celui qui était condamné sans espoir, mais qui maintenant se découvre soudainement rempli de vie et d'espérance? Avant, on faisait confiance en des choses éphémères, santé, argent, travail, notre propre vie, nos efforts. Mais tout ça, ce sont des illusions parce que ça disparaît. Et maintenant, nous faisons confiance à la vérité, c'est-à-dire aux choses éternelles. La grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Quelle doit être notre réaction devant tout cela? La réponse, nous trouvons aussi dans la Bible. Hein? Pas besoin de mettre le verset. Hein? Apocalypse 5. Et là, essayons d'imaginer cette scène. Hein? Essayons d'imaginer ça. Hein? Et il chantait un cantique nouveau. Tu es le seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'entendis la voix d'ange rassembler un grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers, des milliers, des millions, des millions. Et ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres et peuples qui peuplent l'univers, je les ai entendus proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Et nous y serons. Est-ce que nous y serons en toute connaissance des causes? L'adoration n'est pas un devoir. L'adoration, c'est une explosion de gratitude. Nous étions morts et il nous a rendus à la vie. Nous étions condamnés et il nous a justifiés. Nous étions captifs et il nous a libérés. Alors, comment pourrions-nous rester silencieux? L'adoration véritable est la réponse spontanée de celui qui a goûté la grâce. Quand nous saisissons la profondeur de notre salut, adorer devient notre respiration naturelle. Adorer Dieu, ce n'est pas simplement chanter ou prier. C'est de se souvenir profondément de qui nous étions avant Christ et reconnaître pleinement qui est Dieu. Sans cette conscience reconnaissance, nos chants deviennent des simples mélodies et nos prières des simples mots. Mais quand l'Église se rassemble dans une adoration véritable, tout change. Nous ne faisons plus qu'un avec les anges qui célèbrent sa gloire. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez compte que lorsque nous adorons ici-bas, nous ne faisons qu'avec les anges qui sont déjà dans les cieux pour chanter la gloire de Dieu. Nos voix se joignent alors pour proclamer la grandeur du Créateur, la bonté du Sauveur, les miséricordes du Seigneur. C'est dans ces moments-là que nous déposons nos distractions, nos soucis et même nos prétentions que nous découvrons à nouveau la puissance de la grâce. Nous nous souvenons d'où nous venons et nous célébrons avec joie ce que nous sommes devenus en Christ. Alors oui, le culte chrétien doit être une fête de la foi. Le culte là, c'est une fête de la foi. Une explosion de reconnaissance, une célébration vivante de l'amour et de la puissance de Dieu. Chaque fois que nous élevons nos voix, nous rejoignons la louange du ciel et ensemble, nous formons un seul cœur, un seul peuple, une seule adoration. L'adoration n'est pas un espace pour exprimer nos goûts, nos idées ou notre créativité personnelle. Tout ça, c'est important, et fait partie, mais ce n'est pas la raison d'être. Tout cela peut même embellir notre culte, mais ne définit pas notre cœur. Adorer, se reconnaître humblement que nous étions perdus, sans direction ni espérance, que Dieu, dans sa grâce, a redonné sens à notre existence. Dans un monde qui valorise la performance, l'efficacité, le faire, choisir de s'arrêter pour trouver, pour se tourner vers Dieu, est un acte de résistance. Nous résistons contre un monde qui veut, qui ne veut que produire, produire et produire. Non, nous résistons à cette manière de faire, nous résistons avec cette manière d'être. C'est pour ça que l'Église, elle est contre culture. Une Église qui rentre dans la culture, elle a laissé d'être Église. L'Église, elle marche toujours contre la culture. Et notre valeur ne dépend pas de ce que nous produisons. Notre valeur dépend de celui qui nous a rachetés. Chaque fois que nous venons adorer ensemble, nous proclamons une vérité que le monde a oubliée. La vie trouve son sens en Dieu seul. Et aujourd'hui, faisons de notre adoration un acte de foi, de gratitude et de résistance. Nous ne venons pas simplement assister à un culte, mais nous venons nous offrir nous-mêmes à Dieu avec un cœur reconnaissant, déterminé à vivre pour sa gloire. Il y a une deuxième tâche, une deuxième responsabilité de l'Église. L'Église existe pour la communion et pour le témoignage des chrétiens. Et oui, certes, la foi peut grandir dans le secret de la prière, de la méditation et l'étude personnelle de la parole. Je vous encourage tous à ça. Mais elle ne peut s'épanouir pleinement qu'au contact des autres croyants. On ne vit pas notre relation avec Dieu tout seul. Hein? Et pourquoi? Parce que la vie nouvelle que nous avons reçue en Christ n'est pas une expérience privée, mais il s'agit d'une transformation qui nous relie à une famille spirituelle. Autrefois, nous étions séparés de Dieu, enfermés dans une existence sans aucune espérance. Aujourd'hui, nous avons été réconciliés avec notre Créateur. Et une telle grâce ne peut être contenue. Elle nous pousse naturellement à chercher la communion de ceux qui ont été, comme nous, touchés et transformés par cet amour. Depuis les premiers jours de l'Église, les disciples se rassemblaient pour célébrer Dieu, pour partager leur joie et vivre la réalité du pardon de Dieu. Ce n'était pas une simple habitude religieuse, mais l'expression visible d'une unité spirituelle profonde, celle qui reflète l'harmonie parfaite du Père, du Fils, du Saint-Esprit avec nous tous. Cette unité n'est pas une option. Cette unité, elle est notre vocation, notre appel. Dieu nous appelle à nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis, comme le rappelle l'apôtre Paul en Romains 15, que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Être en communion, c'est vivre l'amour de Dieu dans les relations réelles et, soyons honnêtes, parfois exigeantes. Eh oui. Mais profondément transformatrice. Et cet amour ne reste pas enfermé dans nos murs. Cet amour déborde. Il devient témoignage. Il révèle au monde que Dieu est encore à l'œuvre pour restaurer, réconcilier, donner la vie. Ainsi, la communion fraternelle n'est pas un supplément à la vie chrétienne. Elle en est le cœur battant. Là où des croyants s'aiment, se soutiennent et marchent ensemble, le Christ se rend visible. L'Église n'est pas une simple association humaine. Elle est humaine dans sa forme, son organisation, mais elle est divine dans son essence. Ses relations, son organisation, ses émotions portent la marque de notre humanité. Mais son but, son unité et sa mission viennent de Dieu. Du coup, nous ne pouvons pas parler d'une mission de l'Église. Nous parlons de la mission de Dieu dont l'Église est inscrite. Et ça change tout. Ce n'est pas notre mission. C'est la mission de Dieu. Lorsque la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu imprègnent ces réalités humaines, elles deviennent bien plus qu'un fonctionnement communautaire et associatif. Elles deviennent un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas un pouvoir mystique, une aura qu'on voit, la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, ça vient d'un terme en hébreu que ça veut dire le concret, l'essence, la présence, ou, pour être plus juste, le poids. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du poids de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque chose qui a un poids a une présence. Attention, nous parlons du poids de Dieu, mais Dieu n'est pas gros. C'est juste le même terme hébreu pour poids, c'est le terme pour la gloire. Vous voyez que la Bible, aujourd'hui, on veut spiritualiser pas mal de choses. Hein? On veut mystifier presque. Hein? Alors que la Bible, dans la Bible, les termes que nous réputons aujourd'hui comme des termes spirituels, ce sont des termes simples de la vie. La gloire de Dieu aujourd'hui, ah ouais, j'ai vu la gloire de Dieu. Comme si c'était une aura, une lumière magique, mystique, tout ça, alors que dans la Bible, non. J'ai marché avec la gloire de Dieu parce que le poids de Dieu était avec moi. La présence de Dieu était là. C'est-à-dire rendre Dieu visible dans ce monde par la communion, par l'adoration. Manifester sa présence au milieu des hommes. C'est ça la gloire de Dieu en fait. Il n'y a rien de mystique. C'est tout simplement rendre Dieu visible parmi les hommes, par nos actions. Hein? C'est ainsi que par son témoignage, l'Église révèle au monde le besoin fondamental de réconciliation avec le Créateur et annonce en même temps que cette réconciliation est déjà offerte en Christ. Dieu a tout accompli. Il ne reste qu'à accueillir ce don. Dans un monde dominé par la recherche du bien-être personnel, vivre en communion avec des personnes qui choisissent d'aimer et de servir l'autre avant elles-mêmes est un véritable miracle de la grâce de Dieu. Ce que la société ne peut produire par ses propres forces, Dieu le rend possible au sein de son Église. Et cette vérité nous rappelle une chose essentielle. Notre identité chrétienne n'est jamais isolée. Il n'existe pas d'église individuelle. Le chrétien est appelé à dépasser l'individualisme pour revêtir d'une identité communautaire. Il fait partie du corps du Christ. Dans la société, nous coexistons en essayant d'équilibrer nos droits et nos intérêts pour vivre ensemble. Hein? Mais dans l'Église, nous renonçons, volontairement à nos droits pour le bien de l'autre. C'est l'essence même du sermon sur la montagne. C'est cela, selon l'apôtre Paul, le véritable sacrifice de nos corps. Et cet abandon de soi inspiré par le Christ lui-même, devient aujourd'hui l'un des témoignages les plus puissants dans un monde qui glorifie le moi, l'individualisme. Lorsque des croyants reconnaissent humblement leur état devant Dieu et vivent en communion sincère les uns avec les autres, leur unité devient un témoignage puissant. Comment vous arrivez à vivre tous ensemble alors que vous pensez tous différemment les uns des autres? Alors que l'Assemblée nationale, ils se battent parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils vivent des choses épouvantables et tout, ils n'arrivent pas à trouver un commun accord parce qu'ils sont tous différents, ils pensent différemment et à l'Église, nous pensons différemment aussi. Mais nous vivons l'unité du Christ. Parce que ce que nous vivons là, ce que nous sommes là, ne dépend pas du côté humain, ça dépend du côté divin. Vivons cette communion réelle, recherchons-la, protégeons-la, car chaque fois que l'Église choisit l'unité dans l'amour, elle honore le nom de Dieu et elle fait briller sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Et finalement, pour conclure, une troisième responsabilité de l'Église. L'Église existe pour être une communauté de service. Et le service chrétien est le moyen concret par lequel Dieu nous appelle à manifester l'amour qu'il nous a donné. Tout comme il nous a aimés par des actions tangibles, observables, il veut que nous reflétions cet amour par nos actes. Et c'est l'apôtre Pierre qui affirme: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, l'adoration, service et témoignage sont indissociables. Je suis un chrétien qui adore, mais je ne sers pas. Je suis un chrétien qui sert, mais je ne vis pas la communion. Je vis la communion, mais je n'adore pas. Selon Pierre, non, les trois sont indissociables. Hein? Adorer Dieu, c'est le servir. Servir Dieu, c'est témoigner de sa grâce. Martin Luther parlait du sacerdoce universel des croyants, soulignant que leur service n'est ni optionnel ni secondaire, c'est un privilège et une responsabilité. Privilège parce que Dieu nous associe à son œuvre dans ce monde. C'est Dieu qui agit. Mais il nous permet de participer à son action dans ce monde. C'est inouï, c'est extraordinaire ça. Participer à une action du Créateur souverain de l'univers. Qui suis-je? Ça, c'est un privilège. C'est une responsabilité aussi, parce qu'à l'image de Jésus qui est venu pour servir, nous sommes appelés à faire de même. Pour accomplir cette mission, le Saint-Esprit a donné à chacun des dons spirituels, des capacités uniques qui correspondent à notre vocation et aussi à nos talents naturels. Dans l'Église, ces dons se manifestent de manières diverses pour édifier les frères et sœurs et révéler la présence de Dieu. Mais ces dons portent pleinement leurs fruits seulement lorsqu'ils sont reconnus, développés et organisés, et lorsqu'ils répondent aux besoins concrets de l'Église. Sinon, c'est juste un talent naturel, ce n'est pas un don. Et un don va au-delà d'un talent naturel. L'apôtre Paul illustre cette réalité en Romains 12. Et il dit: en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Il faut qu'il y ait dans l'Église la diversité. Si nous sommes tous égaux dans notre personnalité, dans nos talents, dans nos dons, ce n'est pas une église. C'est une association qui forme des robots sociaux. Eh oui, à l'église, il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut qu'il y ait de la différence entre nous. Pour prouver que ce n'est pas la puissance humaine, parce que la puissance humaine veut standardiser tout le monde. Alors que Dieu veut montrer sa gloire dans la diversité. Pourquoi? Parce que rester unis dans la diversité, nous voulons repousser le différent. Alors que Dieu fait ça, il unit et réunit le différent pour former un seul corps. Enseigner, encourager, servir, donner, diriger, exercer la bienveillance, et ensuite de suite, on ne va pas épuiser toute la liste, ne sont pas des rôles interchangeables. Chacun a sa place et sa responsabilité. Les responsables à l'église ne sont pas le pasteur, n'est pas les responsables d'activité ou de ministère. Un chrétien qui adore, un chrétien qui vit la communion et un chrétien qui sert, il est responsable aussi. Pardon de vous décourager comme ça, mais nous sommes tous des responsables. Si quelque chose dans l'église ne va pas, regardons le miroir pour savoir pourquoi telle et telle chose ne va pas. Mais si tout va bien, regardons le miroir, non. Regardons en haut et disons merci Seigneur parce que tu agis en nous malgré nos défaillances. Et oui, la gloire n'est jamais à nous. Hein. La gloire, c'est tout à notre Seigneur. C'est un exercice d'humilité. Hein? Et oui. Il y a diverses listes de dons dans l'Église. Hein? Ainsi, tout don spirituel doit répondre à trois questions essentielles. Révèle-t-il le Christ? Glorifie-t-il Dieu? Édifie-t-il l'Église? Les dons ne sont pas pour flatter notre ego, combler un vide ou meubler le temps. Ils existent pour un but précis, adorer Dieu et témoigner de son œuvre dans le monde. Les dons spirituels que Dieu nous accorde, traduits en grec par charismata, ne sont rien d'autre que des manifestations concrètes de sa grâce charis. En français, même en portugais ou en anglais, on a perdu un peu le lien entre la grâce de Dieu et les dons. Parce que la grâce de Dieu, charis, nous a donné le charismata, les dons. Du coup, il n'y a pas de dons sans la grâce de Dieu, bibliquement parlant. Parce que les dons, les charismata, sont la charis. C'est juste des talents personnels. C'est bien d'avoir des talents. C'est encourageant, c'est beau à voir. Mais ça ne va pas glorifier le Seigneur, ça ne va pas édifier l'Église non plus. Il faut que les charismata, les dons, soient imprégnés, remplis de la charis, de la grâce de Dieu. Donc, chaque don a un but clair, rendre visible la présence et l'action de Dieu au sein de son peuple, et certains se déploient par la parole, comme l'enseignement, l'exhortation, la prophétie, la prédication, d'autres par l'action, hein, des actes de miséricorde, l'aide, le service, le don matériel. Hein. Encore une fois, ce n'est pas possible d'épuiser tout ça dans une seule prédication. Hein. Mais la Bible ne hiérarchise pas ses dons. Il n'y a pas de hiérarchie. Leur valeur dépend du type ou de la visibilité du don, mais de la manière dont nous l'exerçons, avec sagesse, fidélité et discernement. Cela veut dire que, même si je suis là devant vous, il y a une certaine tendance à dire « Ah, le travail du pasteur, il est le plus important et je vous dis non. » Non. Le pasteur a une fonction, certes, mais la fonction pastorale n'est pas plus importante que n'importe quelle autre fonction à l'Église. S'il n'y a pas de frères et sœurs qui sont disposés à servir la Sainte Cène, nous n'aurons pas de Sainte Cène. Voyez ? Et peu importe, on peut avoir 35 pasteurs là-dessus. S'il n'y a pas de frères et sœurs, ou même des pasteurs qui se lèvent pour servir la Sainte Cène, il n'y a pas de Sainte Cène. Voyez ? Il n'y a pas de hiérarchie concernant la fonction de l'Église. OK ? Ce sont des fonctions différentes. Depuis ce début, l'Église a eu besoin d'organisation pour fonctionner correctement et accomplir sa mission. La Bible identifie deux groupes essentiels pour cette structure au début. Hein? Les anciens et les diacres. Les anciens, ce sont un type de leader spirituel de l'Église. Soulignant Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça relève de la fonction. Hein? Mais à l'Église, s'il n'y avait pas eu des diacres pour servir aux tables et les personnes qui en avaient besoin, les disciples qui prêchaient la parole, ils pouvaient faire les deux. Et les personnes, elles auraient été servies? Non. Vous voyez? Il n'y a pas de hiérarchie. Hein? Donc, la Bible ne décrit pas un système rigide de désignation d'anciens ou de diacres. Il n'y a pas une recette. C'est juste un modèle parmi d'autres. Ce n'était pas le but des apôtres de décrire une église parfaite. Hein? Donc, l'Église n'existe que parce qu'elle vit une relation vivante avec Dieu. Sans communion réelle avec lui, à travers l'adoration, le service, le témoignage, elle ne serait qu'une organisation humaine parmi tant d'autres. Et chaque membre, parmi tant d'autres, chaque membre est donc appelé à une conversion personnelle, à une transformation profonde de son cœur, de son caractère, à chercher à grandir dans l'amour, à former des disciples mûrs. Vision et mission. Hein? Cela ne signifie pas que nous devenons parfaits, loin de là. On compte aussi sur nos défaillances, nos péchés. Hein? Et justement, on appelle ça la sanctification. Le fait de vouloir approfondir notre service, notre communion hein, et notre adoration. Hein? C'est une tension que le chrétien vit. Mais cette tension n'est pas un obstacle. Mais cette tension que nous vivons en tant que chrétiens, c'est une opportunité. L'Église est faite pour être un refuge, un lieu où chacun peut déposer ses luttes. Où chacun peut confesser ses faiblesses et chacun puisse recevoir l'encouragement et la correction pour continuer sa marche avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu est glorifié. Lorsque nos vies brisées deviennent des témoins de sa grâce. Mais cette transformation ne dépend pas seulement de nos efforts. Dieu nous a équipés des dons spirituels pour aimer les autres comme il nous a aimés. Et à travers ces nous manifestons sa présence, son amour transformateur dans le monde. Ne restons pas spectateurs. Engageons-nous, dès aujourd'hui, à vivre une relation authentique avec Dieu, à utiliser nos dons pour servir, pour encourager et à faire de l'Église ce refuge vivant dans une société qui ne fait qu'opprimer, qui ne fait que massacrer. Soyons une Église qui accueille le faible, soyons une église, un lieu de refuge où nous puissions servir les uns les autres dans l'amour du Seigneur et que nous adorions tous le même Seigneur. Parce que tout, nous reconnaissons tous d'où nous sommes sortis et là le Seigneur nous a mis. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. J'aimerais prier. Seigneur, nous voici, et on vient de chanter au début de ce culte, nous voici conscient du poids de nos fautes. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous chantons majesté. Parce que ta majesté nous a trouvés tels que nous étions. Et tels que nous étions, tu nous as aimés. On n'a rien, absolument rien fait pour recevoir ton amour ou la condition que tu nous as offert en Christ de la réconciliation avec toi. Et pourtant, Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as ouvert le chemin, tu nous as offert la vraie vie et pas une vie d'illusion fondée sur des choses éphémères, mais la vie éternelle, une vie qui demeure éternellement en toi sur ta parole. Seigneur, accomplis en nous ta volonté. Donne-nous, Seigneur, la capacité selon ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Seigneur, éclaire-nous toujours par ton Esprit, chacun de leurs dons et chacun pour sa part. Serve le Seigneur ici dans cette communauté pour que ton nom soit glorifié en nous. Veuille, Seigneur, glorifier ton nom dans ton église ici à Villiers-le-Bel. Que ton nom soit loué, béni dans chacun de nous qui sommes là. Au nom de Jésus, amen. Amen.